La voix de la crime. Un podcast pour mieux comprendre la jurisprudence de la chambre criminelle. Avec la participation d'Ida Chaffaille et Olivier Violo, conseiller référendaire, et de Guillaume Fradin, directeur du service de communication de la Cour de cassation.
En 2025, le gouvernement a lancé une nouvelle campagne de lutte contre les violences faites aux enfants. L'objectif ? Faire connaître le numéro d'appel 119 permettant d'opérer un signalement. Et en effet, une étude commandée par les pouvoirs publics a montré que les violences faites aux enfants étaient un sujet encore tabou. Or, chaque semaine, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Dans une décision du 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que les violences éducatives étaient interdites et qu'il n'existait pas un droit de correction parentale. Cet arrêt a été très commenté, que ce soit dans la presse généraliste ou dans les revues spécialisées. Bonjour Ida, bonjour Olivier. Pouvez-vous nous parler des circonstances qui ont amené la Cour de cassation à se prononcer sur le principe même de violences dites éducatives ?
Un père de famille a été poursuivi pour avoir commis, entre 2016 et 2022, des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur ses deux enfants, âgés de moins de 15 ans. Il faut préciser qu'il était reproché à ce père de famille d'avoir donné à ses enfants des gifles et des fessées, mais également d'avoir pratiqué sur eux des étranglements et de les avoir insultés. Dans un précédent podcast consacré aux violences exercées par un prévenu sur son ancienne compagne, à propos d'un arrêt rendu par la chambre criminelle le 2 mai 2024, nous avions eu l'occasion de nous arrêter sur la notion d'incapacité de travail. Nos auditeurs retrouveront les références de cet épisode sur la page internet consacrée au présent podcast. Je veux juste ici rappeler qu'en droit pénal, le résultat des violences a une incidence sur la répression et que l'existence même d'une incapacité de travail est appréciée par le juge au regard des éléments dont il dispose, et notamment en fonction des mentions du certificat médical de la victime. Si, en principe, les violences commises sans incapacité de travail relèvent de la catégorie des contraventions, il en est autrement quand elles sont aggravées, et notamment si elles sont commises par un ascendant sur un mineur de 15 ans, c'est-à-dire par un parent, sur son enfant âgé de moins de 15 ans. L'article 222-13 du Code pénal punit alors de telles violences de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Le parent poursuivi encourt même le retrait de son autorité parentale en application de l'article 378 du Code civil.
C'est d'ailleurs la décision qu'a prise le tribunal correctionnel dans l'affaire dont nous parlons aujourd'hui. En effet, le père de famille a été déclaré coupable des violences dénoncées par ses enfants et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis, ainsi qu'au retrait de son autorité parentale. Le prévenu, c'est ainsi qu'on désigne la personne poursuivie devant le tribunal correctionnel, a toutefois relevé appel de cette décision et a fait valoir devant la cour d'appel que les actes qui lui étaient reprochés avaient un caractère éducatif et étaient justifiés par le comportement de ses enfants. La cour d'appel a suivi ce raisonnement. Elle a relaxé le prévenu après avoir estimé que les violences reprochées ne pouvait être sanctionnée s'agissant de violences qu'elle a qualifiées d'éducatives, qui n'avaient pas causé de dommages, qui étaient, toujours selon la cour d'appel, proportionnées aux agissements des enfants et n'avaient pas de caractère humiliant. Le procureur général a alors formé un pourvoi contre cette décision de relax et c'est dans ces conditions que la chambre criminelle a été saisie.
Il existe une idée répandue selon laquelle les parents ont le droit d'infliger des corrections physiques à leurs enfants, en d'autres termes, des châtiments corporels. Est-ce qu'il s'agit d'une idée reçue, d'une coutume, d'une tolérance ? Sur quoi la cour d'appel a-t-elle fondé son raisonnement ?
Ce pourvoi a donné l'occasion à la chambre criminelle de se prononcer sur des pratiques éducatives qui ont longtemps été admises, mais dont la légalité est aujourd'hui questionnée à l'aune des changements sociétaux et de l'évolution des normes de droit qui en découlent. Pour estimer qu'il existe un droit de correction reconnu aux parents, qui autorise le juge pénal à renoncer à sanctionner les auteurs de violences, les juges se sont référés dans leurs décisions aux textes internationaux et au droit positif français. La chambre criminelle a donc passé en revue les différentes sources du droit pour rechercher l'existence de ce droit de correction invoqué par les juges. Le code pénal, la jurisprudence qu'elle a éclairée par le code civil et la Convention des droits de l'enfant. Pour asseoir cette décision, la chambre criminelle a rédigé un arrêt en motivation dite « enrichie » afin d'expliciter son raisonnement.
Avant d'évoquer ces textes, j'attire l'attention de nos auditeurs sur le mécanisme juridique que les juges décrivent qui permet à l'auteur d'une infraction d'échapper à une condamnation. Il s'agit de ce qu'on appelle un fait justificatif. Les faits justificatifs répondent à des conditions précises, définies par le législateur. Vous en connaissez sûrement au moins deux, la légitime défense et l'état de nécessité.
Le droit de correction pourrait être un fait justificatif ?
C'est ce que la Cour d'appel a retenu, et c'est l'hypothèse que la Chambre criminelle a analysée avant de l'écarter en deux temps. Premier temps, elle a constaté que le Code pénal réprime les violences sur les mineurs aux articles 222-13 et 222-14-3. Ce dernier texte précisant que les violences sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques, sans prévoir aucun fait justificatif tiré d'un droit de correction éducative. Deuxième temps, la Chambre criminelle a examiné un arrêt ancien de la Cour de cassation, daté du 17 décembre 1819, qui a vraisemblablement inspiré la relaxe prononcée par les juges d'appel, et qui a énoncé, je cite, que si la nature et les lois civiles donnent aux pères sur leurs enfants une autorité de correction, elles ne leur confèrent pas le droit d'exercer sur eux des violences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril. Cet arrêt a pu être interprété comme autorisant les pères à exercer un droit de correction sur leurs enfants, au regard, je cite toujours, de la nature et des lois civiles. Mais la Chambre criminelle a expliqué que cette solution ne reflétait pas l'état actuel du droit positif. L'arrêt du 17 décembre 1819 doit en effet être replacé dans son contexte, notamment au regard des lois civiles alors applicables, qui sont très éloignées de la conception de l'autorité parentale définie aujourd'hui à l'article 371-1 du Code civil. Au cours des dernières décennies, le droit civil a fortement évolué et le principe posé dans l'arrêt de 1819 n'a jamais été réitéré par la Chambre criminelle. C'est pourquoi elle a énoncé, dans l'arrêt que nous commentons aujourd'hui, que, je cite, « la jurisprudence contemporaine de la Chambre criminelle ne reconnaît pas un droit de correction parentale ».
Et la Cour de cassation a ensuite relevé que l'article 371-1 du Code civil a été complété par une loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Donc ce texte a été complété d'un troisième alinéa qui énonce, je cite, « l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique ». Pour la Chambre criminelle, cette précision manifeste l'intention du législateur de bannir toute forme de violence à l'égard des enfants, dans le respect des engagements internationaux de la France.
Justement, que disent les textes internationaux ? Est-ce qu'ils tolèrent une forme de droit de correction parentale ?
La Chambre criminelle s'est référée à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et à un texte émanant du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, dont il ne résulte aucune reconnaissance d'un droit de correction parentale et qui, à l'inverse, exclut toute forme de violence commise par les parents sur leurs enfants. Précisons qu'en l'espèce, la Chambre criminelle ne fait pas application de la Convention des droits de l'enfant, mais elle éclaire le droit national à la lumière de cette convention, ce qui est différent. L'application directe par le juge français de la Convention des droits de l'enfant pose en effet difficulté. La Chambre criminelle considère traditionnellement que ne sont invocables devant elle que les dispositions des textes internationaux qui sont pourvus d'un effet direct, c'est-à-dire qui créent des droits au profit des particuliers. Lorsqu'un texte international ne crée d'obligation qu'à la charge des États qui en sont signataires, un justiciable ne peut l'invoquer directement devant les juridictions nationales. C'est ce que la Chambre criminelle a jugé à propos de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui traite de la détention des enfants dans un arrêt du 18 juin 1997.
La chambre criminelle a donc cassé l'arrêt attaqué en énonçant que la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu après avoir constaté que les violences reprochées étaient caractérisées. L'affaire sera donc rejugée par une autre cour d'appel. Cette décision m'offre l'occasion d'apporter à nos auditeurs une information technique propre à la cassation en matière pénale. Deux associations de protection de l'enfant ont en effet souhaité intervenir dans ce dossier pour la première fois devant la Cour de cassation. Mais le Code de procédure pénale ne prévoit pas une telle possibilité, de sorte que la Chambre criminelle a déclaré irrecevables les mémoires que ces associations avaient déposées, c'est-à-dire les écritures dans lesquelles elles développaient une argumentation. Notez que seule la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le défenseur des droits disposent de la faculté de présenter des observations devant la chambre criminelle, alors qu'ils ne sont pas partis à la procédure.
C'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver toutes les références des décisions citées sur le site de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci également à l'équipe d'Amicus Radio pour leur soutien technique et leur précieuse assistance.
Nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour le prochain podcast de la Chambre criminelle. N'hésitez pas à faire part de vos demandes d'explications de jurisprudence en nous adressant un courriel à lavoixdelacrime.courdecassation@justice.fr. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les précédents podcasts de la Chambre criminelle sur le site internet de la Cour de cassation à la rubrique kiosque, ainsi que sur la plupart des plateformes de diffusion. À bientôt.